Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Élections en Namibie, la population sera aux urnes mercredi pour des élections générales promises une nouvelle fois à la SWAPO. L'organisation du peuple du sud-ouest africain qui dirige le pays sans partage depuis son indépendance en 1990. Et ce, malgré une récession économique sévère et la grogne montante de l'électorat. Le président Adjo Gengob, 78 ans, est candidat à un second mandat et face à la machine électorale parfaitement huilée de la SWAPO, l'opposition fait piètre figure. La première femme à briguer la magistrature suprême, Esther Mouidjinge, 57 ans, a dénoncé la corruption et le clientélisme du régime. Madame Mouidjinge n'ambitionne au mieux que de remporter 2 des 96 sièges du Parlement. La seule menace réelle semble venir d'un ancien dentiste et avocat de 62 ans, Panduleni Itula. Toujours membre de la SWAPO, il se présente en candidat indépendant. Le peuple namibien vit dans la dèche, a-t-il affirmé la semaine dernière en soulignant ne pas pouvoir ignorer en conscience le cri de détresse des Namibiens. Élections en Guinée-Bissau maintenant. Les Bissau-Guinéens sont ce lundi dans l'attente des résultats de la présidentielle et surtout de savoir si ce scrutin ramènera la stabilité dans le pays miné par la corruption, les trafics de drogue et les crises politiques à répétition. Il y a eu quelques échauffourées lors du vote entre militants des différents camps, suivis de l'intervention de la police dans certaines localités. Des accusations de fraude ont également été lancées par le camp du président sortant José Mario Vaz. Mais selon notre correspondante sur place, Dari Kaling Lopi, de l'avis des observateurs internationaux, le vote s'est globalement bien déroulé. Le film du scrutin dimanche avec notre correspondante Abissao.
Le chant du coq pour accueillir les premiers citoyens en Guinée-Bissau. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche dès 7h du matin. Dans ce premier bureau, chaque électeur a attendu patiemment son tour pour voter.
Tout s'est bien passé, je suis content. Depuis que le vote a commencé, il n'y a pas eu de problème.
Et ce calme, nous l'avons ressenti dans tous les lieux de vote où nous sommes allés à Bissau. Un sentiment partagé par le président du bureau 37-1 de la capitale, Carlos Najak.
En Guinée, il n'y a pas de violence. Des frères ne soutiennent pas le même candidat, mais ils coexistent quand même. Ce que les gens veulent, c'est un candidat qui se bat pour le pays.
Près de 700 000 Bissau-Guinéens étaient appelés à voter. Pas encore de taux de participation, mais l'engouement pour l'élection est bien là et sans accroc majeur. Un constat dressé par OANEP, un réseau composé notamment de 6 organisations civiles bissau-guinéennes. Julien Oussou en charge de la coordination du processus électoral.
Nous avons aussi remarqué que le processus s'est déroulé sans interruption. Il y a eu quelques cas isolés d'interruption dus au fait que, par exemple, un citoyen résiste à ce qu'on coupe sa carte parce qu'il a fini de voter, parce que ne comprenant pas que c'est cela qu'il fallait faire, un déficit d'information et de communication en amont. Globalement, de notre point de vue, le processus s'est déroulé correctement.
Côté candidat, des soutiens du président sortant, José Mario Vaz, ont dénoncé des fraudes du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et son candidat, Domingo Simões Pereira, n'ont pour leur pas répondu. Les résultats du premier tour devraient être communiqués en début de semaine. Dari Kaling Lopi à Bissau pour VOA Afrique.
Politique en Côte d'Ivoire, consultation hier à l'AE aux Pays-Bas entre l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens en liberté conditionnelle dans l'attente d'une décision de la Cour pénale internationale, la CPI. L'entretien que M. Soro, ex-chef rebelle et candidat à la présidentielle de 2020, vient d'avoir avec Charles Blé Goudé, proche collaborateur de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a été placé sous le signe de la recherche de la paix. Les détails avec Patrick Ndouimana.
La rencontre entre ses anciens frères ennemis intervient symboliquement près de 10 ans après la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire qui a fait 3000 morts. Et à chacun, à une époque, dirigeait la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESCI, le puissant syndicat étudiant. Les deux hommes ont exprimé leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d'Ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours de la crise. Ils s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère, conviennent que la réconciliation doit s'honorer de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Il réaffirme la nécessité de privilégier la voie du dialogue, de la négociation et de la concertation dans la résolution des conflits, poursuit le texte. M. Soro a annoncé en octobre sa candidature à la présidentielle de 2020, après avoir rompu les ponts avec le président Ouattara et la coalition au pouvoir Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en début d'année. Il a multiplié les gestes envers ses anciens adversaires politiques, demandant pardon à Laurent Gbagbo ou en s'entretenant avec l'ancien président Henri Konan Bédié, lui aussi passé du RHDP à l'opposition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Violence en République démocratique du Congo. Tir nourri ce lundi à Beni, province du Nord Kivu dans l'est du pays, près d'une base de la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, après un nouveau massacre de civils dans la région attribué au groupe armé des ADF, les rebelles des forces démocratiques alliées. 8 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi à Beni lors de cette attaque, a indiqué un porte-parole de l'armée nationale congolaise, les FARDC. En signe de protestation, des habitants en colère ont partiellement incendié la mairie de Beni, grande agglomération proche de l'Ouganda. Les manifestants dénoncent depuis plusieurs jours l'inaction de l'armée congolaise et des casques bleus de l'ONU présents dans la région face aux tueries des forces démocratiques alliées. RDC toujours, au moins 26 personnes ont été tuées dans le crash de petit avion de ligne de type Dornier 228 hier à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Cet appareil de la compagnie privée Bizibi devait se rendre à Beni et Butembo au nord de Goma. Une panne technique serait à l'origine de l'accident. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
L'appareil s'est écrasé vers 8h30 au décollage sur une maison au quartier résidentiel Mapendo, à côté de l'aéroport, construit près de la frontière avec le Rwanda, au milieu d'une zone densément peuplée. L'avion transportait 19 personnes, dont des membres de l'équipage. Outre les passagers, 7 personnes de la même famille et habitants Goma figurent parmi les victimes de la chute de l'avion. Alain Bati raconte.
L'avion atterrit au-dessus de la maison. Alors en bas, il y avait des enfants et juste après atterrissage, ça commençait à se brûler. On n'a pas encore un nombre juste, mais il y a eu des vingtaines. Parce que depuis le crash jusqu'à 7h, on est en train d'enlever les corps.
Parmi les passagers victimes de l'accident de Goma, figure la coordinatrice d'une association de défense des droits des femmes, Mapendo Zawadi. Des habitants du quartier Birere observent impuissamment la carlingue de l'avion encore fumante, encastrée dans les murs d'une maison. Kininga Edi estime que l'aéroport devrait être délocalisé loin de la ville.
Mon point de vue, c'est quoi? Il faudrait qu'il y ait vraiment un suivi sur les services techniques de nos aviations. Et puis, avec l'évolution de la ville, on devrait normalement maintenant délocaliser, parce que quand il est devenu aéroport international, on devait prendre les précautions de délocaliser cet aéroport, juste pour épargner les vies humaines. Si jamais on ne prend pas vraiment les précautions, et la population va continuer toujours à subir les sortes de crash ici à Goma.
Cet avion transportait aussi de l'argent d'une banque locale qui voulait alimenter ses agences au nord de Goma, capitale provinciale. Pour éteindre l'incendie et récupérer les corps des victimes, la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, a envoyé 2 camions de pompiers en renfort des équipes congolaises. Le 10 octobre dernier, un Antonov 72 s'est écrasé dans le centre du pays après avoir décollé de Goma. Il transportait des équipes d'appui logistique du président Félix Tshisekedi qui rentrait le même jour d'un déplacement dans l'est du pays. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Et pour terminer, inondation au Kenya, les pluies torrentielles qui se sont abattus sur l'ouest du pays depuis vendredi dernier ont fait 52 morts, notamment dans des glissements de terrain, selon un nouveau bilan communiqué ce lundi à la presse par le gouverneur du comté de West Pokot, John Lonian Gapwo. Le nombre confirmé de morts est à présent de 52, a déclaré le haut responsable de ce comté frontalier de l'Ouganda, à environ 350 kilomètres au nord-ouest de Nairobi. Le gouverneur a ajouté que des ponts avaient été emportés par les inondations, rendant difficile l'envoi des secours dans certaines zones affectées. Un précédent bilan établi ce week-end de sources officielles faisait état de 29 victimes dans la région. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.